Bonsoir. Plusieurs villes et communes ont été créées à travers le pays. Une série de décrets signés en février dernier par le Premier ministre sortant Adolphe Mouzito a été récemment rendu public. L'intersyndicale de l'administration publique juge au gouvernement l'application des accords dits d'Mboudi tels que révis et approuvés par les deux parties. Quels sont les thèmes que vous propose sur l'une de la presse de ce soir? Pour accompagner les journalistes qui participent à ce débat, il s'agit de Giscard Kousséma et le directeur général des canaux de télévision émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Giscard Kousséma.
Bonsoir du matin.
Israël Moustala, il est journaliste au magazine Géopolis, un magazine économique qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Israël Moustala.
Bonsoir Guy.
Et Néron Kata, il est directeur de la radio Vouvou Sieto, émettant depuis Mandangungu au Bas-Congo. Bonsoir Néron Kata.
Bonsoir Guy.
Création de nouvelles villes et communes, l'intersyndicale exige l'application du barème dit de Mboudi. Écoutons cette série de presse que nous présente Samuel Kachak pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa se sont focalisés sur le processus de décentralisation en RDC. À ce sujet, l'Observateur titre « Politique de décentralisation, 70 nouvelles villes et 285 communes ont été créées en RDC ». D'après ce journal, c'est l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito qui avait signé les décrets créant ces nouvelles entités administratives. Ces décrets poursuivent le quotidien chinois, concernent 10 provinces du pays à l'exception de Kinshasa. Ainsi, chaque province compte aujourd'hui au moins 3 villes et 10 communes nouvellement créées. Se penchant sur la situation des fonctionnaires et agents de l'État, le palmarès renseigne que le gouvernement et les syndicats de l'administration publique sont tombés d'accord sur le nouveau barème salarial des agents et cadres de l'État. Ce barème fixe à 159 000 francs congolais, soit 172 $ américains, le salaire d'un huissier, et à 1599 000 francs congolais, soit 1738 $ américains, celui du secrétaire général, conclut le palmarès. Toujours concernant la politique salariale en RDC, l'Observateur annonce que les salaires des fonctionnaires de l'État pourront être bientôt majorés. C'est ce qui ressort d'un atelier sur les propositions de la politique salariale et du régime de retraite des agents et fonctionnaires de l'État organisé à Kinshasa. Sur un autre registre, le potentiel s'intéresse au général des FRDC dont les troupes ont fait défection. Il titre « Bosco Ntaganda fait une démonstration de force à Goma ». Selon le confrère, les rumeurs sur une éventuelle arrestation du général Bosco Ntaganda sont à la base de la panique justifiée ou pas qui a mis la ville de Goma sans dessus dessous. Autre sujet d'actualité cette semaine, l'Observateur rapporte que les médecins ont décidé de déclencher la grève depuis lundi 2 avril dans tous les hôpitaux publics de Kinshasa. Conséquence, note le quotidien, ils refusent de consulter les malades et les interventions chirurgicales n'ont pas lieu bien qu'un service minimum soit assuré au premier jour. La référence plus estime actuellement à l'hôpital général de Kinshasa, où les malades sont abandonnés à leur triste sort. Tandis que la clinique Galima comme dans d'autres hôpitaux, seuls les malades internés sont suivis par des médecins stagiaires.
Merci, Samuel Kachak. Un petit commentaire, Giscard Kousséma, vous êtes directeur général des canaux Culture Télévision, et notamment depuis Kinshasa. L'actualité, c'est aussi cette défection observée depuis quelques jours d'une frange d'officiers FRDC au nord et au sud de Kivu.
Effectivement, c'est un autre sujet d'actualité qui retient l'attention du public lorsqu'on sait que tout part de l'Est et que depuis un moment, la situation s'est terriblement détérioré de plus en plus grand et personne ne peut présager ce qui peut arriver dans les jours qui suivent. Mais j'aurais également voulu du matin que votre desk sélectionna également deux sujets d'actualité qui me paraissent non moins importants. Tout d'abord, non loin de nous au Sénégal, une situation qui reste d'actualité lorsqu'on sait que tout a basculé en une semaine, on le sait. Élection, dans la soirée il y a proclamation de résultats, le lendemain passation du pouvoir, et puis nomination d'un premier ministre, formation du gouvernement. c'est quand même un bon exemple en Afrique lorsqu'on sait que la République démocratique du Congo est maintenant dans son cinquième mois, toujours dans la procédure de la formation d'un gouvernement. Et puis l'autre sujet, cette affaire au départ qui était anodine, mais qui prend les allures d'une affaire d'État, la fermeture depuis plus de 5 mois d'un média, Canal Futur, ma télévision.
Vous êtes directeur général.
Donc, directeur général est effectivement une affaire qui aux allures d'une affaire d'État, une affaire de règlement des comptes personnels, parce que du matin, vous savez, aucune instance officielle n'est en mesure aujourd'hui de prendre une décision pour que CFTV reprenne les émissions. Et ceci conforte la thèse de ceux qui ont toujours pensé qu'il y a une officine obscure qui a pris la décision de réduire au silence ces médias qui paient le prix du martyre de la démocratie, et que apparemment aucune instance n'est en mesure d'aller auprès de la même instance pour cela. Et donc, si on peut en parler dans les jours qui suivent, c'est intéressant.
Merci, Israël Moutala, journaliste au magazine Géopolis, un magazine économique qui paraît ici à Kinshasa. L'autre actualité, c'est la grève des médecins qui est effective depuis lundi dernier ici à Kinshasa. Allô, Israël Moutala? Apparemment, on a perdu Israël Moutala. Nous prenons Néron Kata. Néron Kata, vous êtes directeur de la radio Vuvuketo, étant depuis Mangangungu au Bas-Congo. L'autre actualité, je le disais, c'est la grève des médecins qui est effective ici à Kinshasa.
Oui, merci. La grève des médecins, c'est pas seulement à Kinshasa, ça s'est répandu aussi dans la province du Bas-Congo, comme boule de neige. Il faut compter qu'en Mangangungu, même à Matadi, les médecins sont réellement en grève, et jusque-là, ce sont des services minimums qui s'opèrent. Mais alors, la question que le commun des mortels se pose, c'est ça ira jusqu'à quand, parce que ça paraît vraiment comme un suicide. Les malades sont là, personne ne regarde, sinon les quelques infirmiers, pas de médecins en permanence, pas de médecins qui les consultent. Et la population se pose la question, est-ce que le gouvernement se penche sur ce problème pour que finalement ça puisse finir, parce que, sincèrement, tout à l'heure, là, je faisais un petit tour à l'hôpital général de référence de Sonankulu à Mbanzangungu, où j'ai vu ces cas, c'est-à-dire les malades là, sont là, d'avance, j'ai rencontré des médecins en réunion. Vous voyez tout ça, donc ça signifie qu'on se pose encore la question que jusqu'à quand cette grève, il faudra que l'État trouve rapidement une solution.
Néron Kata, à part cette actualité, il y a une autre actualité qui domine dans la province du Bas-Congo.
Oui, l'actualité maintenant, à part dans la province en général, à part peut-être l'élection du gouverneur qui pointe à l'horizon, mais il y a une actualité sociale. C'est vraiment de la contrée. Il se fait que les pluies qui s'abattent ces derniers temps sur le territoire de Mbanzangungu laissent quelques familles en détresse, comme la pluie de ces mercredis, d'hier mercredi, a tué deux personnes d'une même famille au camp lieutenant-colonel Ebea, ici à Mbanzangungu. Il a emporté la toiture d'une école et d'un centre de santé dans le secteur d'Intimansi. Il y a un enfant de 14 ans qui est mort au poste 18 à Kwilungongo, donc à 40 km de Kwilungongo. Toujours, c'est après des noyades, sur des fortes pluies, accompagnées de temps violent. Voilà un peu l'actualité qui attriste la contrée.
Merci Israël Moutala, journaliste du magazine Géopolis, un magazine économique qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est, je l'ai dit tantôt, c'est la grève des médecins qui est effective ici à Kinshasa.
Oui, c'est une actualité triste parce que les médecins sont des personnes qui doivent être bien traitées parce qu'ils nous soignent, ils prennent soin de nous, ils nous accompagnent dans tous les moments où nous avons des pépins de santé. Donc c'est un corps de la nation qui doit être particulièrement choyée, parce que d'abord les études de médecine impliquent beaucoup de sacrifices et leur travail est un travail qui consiste à conserver la vie, et donc c'est un travail qui doit être vraiment bien rémunéré. Ce qui est pour moi étonnant, c'est que ce sont des grèves à répétition. Je ne comprends pas comment est-ce que souvent ils sont tournés en bourrique par le gouvernement quand ils souscrivent librement à des accords. Il y a une partie, souvent la partie gouvernementale, qui ne respecte pas sa part du contrat, c'est ce qui est dommage. Mais ce qui est aussi curieux, c'est le moment où intervient cette grève. elle intervient lorsque nous avons un premier ministre. Donc ça veut dire qu'au pouvoir limité, soit les médecins veulent, bon, je comprends ça parce que ce sont des gens quand même intelligents, je comprends que c'est une façon tactique d'imposer déjà au ministre de la Santé, qui sera bientôt connu et auprès au futur ministre. Donc, sur le plan tactique, c'est ça le premier dossier chaud qu'il aura à traiter. Et donc, de ce côté-là, ils sont plus ou moins habiles sur le plan tactique.
Merci, notre premier thème de ce soir. Plusieurs villes et communes ont été créées à travers le pays. Une série de décrets signés en février dernier par le Premier ministre sortant Adolphe Mouzito a été récemment rendu public. À l'administration du territoire, plusieurs villes et communes ont été créées à travers le pays. En effet, le Premier ministre sortant Adolphe Mouzito avait signé une série de décrets en février dernier. Ces décrets concernent toutes les provinces du pays, à l'exception de la ville de Kinshasa. Chaque province a au moins 3 villes et 10 communes nouvellement créées. Innocent Olinga pour les détails.
C'est la province orientale qui bat les records avec 18 villes et 44 communes créées. Il est suivi du Bandundu, 12 villes et 41 communes. Le Kasaï oriental a 10 nouvelles villes et 30 communes. Le Katanga est doté de 6 villes et de 24 communes. L'Équateur, les Maniema et les Bakongo ont chacun 5 nouvelles villes à la différence des communes qui sont à 22 pour les premiers, 19 pour les seconds et 12 pour les troisièmes. Enfin, les Kasaï occidental, les Nord-Kivu et les Sud-Kivu ont chacun 3 villes avec respectivement 37, 32 et 24 communes. Sous ce décret d'Adolphe Mouzito, conférant les statuts des villes et des communes à certaines agglomérations des provinces, sont accompagnés d'une circulaire supprimant d'office les districts, la cité et les postes d'encadrement administratif. Leurs animateurs sont mis à la disposition des ministères sectoriels compétents pour leur gestion administrative.
Jusqu'à présent, de nouvelles villes, communes, comment vous analysez cette décision du gouvernement congolais?
Écoutez, avant de répondre à votre question, laissez-moi d'abord vous donner la définition universelle d'une ville. Il me semble qu'une ville, c'est au départ une agglomération, par définition donc, d'une certaine importance, et dont la majorité de la population est occupée par le commerce, l'industrie ou l'administration. Au-delà de ces activités qui sont du reste une existence dans ces villages qui ont été décrétés des villes, il y a d'abord des standards internationaux, même un minimum atteint quant à la qualité de la vie. Mais il me semble que toutes ces agglomérations qui ont été décrétées villes n'ont aucune infrastructure moderne. Vous arrivez à certains villages, vous trouvez à peine une maison bâtie à l'époque coloniale et qui abrite peut-être les services administratifs de la cité et qui, plus rien, pas d'eau, pas d'électricité, des moyens de transport inexistants, pas de route, parfois pas de moyens de communication. Et là, on se demande sur base de quels critères certains villages ont été décrétés villes. Une ville, c'est par rapport à la qualité de la vie. On sent un certain développement, une certaine modernisation. Ce n'est pas par un décret. Alors, si on devait s'en tenir à ces décrets-là, vous allez vous rendre compte, curieusement et paradoxalement, que c'est le Bandundu, par exemple, qui est plus développé que le Katanga. Vous pouvez imaginer. Le Katanga, qui n'a que 6 villes, des anciennes, et le Bandundu en a 12, alors qu'on sait que même le chef-lieu de la province est même enclavé, il n'y a presque rien. Non, je crois que c'est un scandale lorsqu'on sait déjà qu'à Kinshasa, la qualité de la vie va de mal en pire. On sent que la Kinshasa se ruralise, on est dans des pratiques moyenâgeuses. Et curieusement, ce sont des villages qui ont été décrétés. Je crois qu'il fallait faire la votre avis attendre que toutes les conditions soient réunies pour
il fallait prendre une décision et peut-être que le gouvernement pourrait se sentir dans l'obligation de développer ces différentes entités.
À mon avis, du matin, il fallait viser ne plus que le minimum. Je l'ai dit en connaissance des causes. Je suis journaliste.
Le minimum, c'est quoi la
qualité de la vie? Ne plus que la qualité de la vie. Vous pouvez vous imaginer qu'on décrète une ville dans un village où il n'y a ni eau ni électricité, il n'y a ni réseau de communication, une agglomération enclavée. Simplement, moi je crois que ça répond à une question
satisfaction suscite, simplement pour que l'histoire éteigne. Voilà, j'étais là, moi j'ai trouvé le Bandundu avec 3 villes, et moi j'en ai créé 12. Non, non, je crois qu'il y a là un problème. Une ville, il ne faudrait pas qu'on s'éloigne des standards internationaux, même du minimum. Je crois qu'il aurait fallu qu'il y ait des études de fiabilité, de faisabilité, arriver sur place. J'ai l'avantage, en tant que journaliste, d'avoir sillonné un peu ce pays. Et si je vous cite certainement des villages qui ont été décrétés villes, c'est scandaleux.
Merci. Et Gaël Moutala, selon Issa Koussema, les conditions n'étaient pas encore réunies, mais nous allons nous rappeler qu'il y a des voix qui se lèvent pour réclamer l'application de la décentralisation telle qu'elle est consacrée par la Constitution. Et avec ces différents décrets, n'est-ce pas le début de ces processus? Allô, Israël Moutala, apparemment nous l'avons encore perdu. Je pose la même question à Néron Kata. Néron Kata?
Pour moi, je suis en train de me dire, si c'est le début de la décentralisation, il fallait commencer par les villes. Parce que c'est la question qu'on se pose. Comme l'a dit mon prédécesseur, ces villes, il y en a qui ne répondent pas aux normes internationales. Nous ne voulons même pas dire internationales, même aux normes nationales, je crois, d'une ville. Il y a des villages qui sont devenus villes, ou dans notre cas, par exemple, il y a d'autres villages qui sont devenus des communes. Je crois que c'est trop tôt, ils ne devraient pas déjà devenir villes ou communes. Et encore, ce décret, pour ce qui concerne les Bas-Congo et particulièrement les districts de Cataractes, c'est un décret qui laisse encore déjà perplexe, parce qu'on se pose la question de savoir est-ce les erreurs qu'on avait constatées quand ce décret avait d'abord été publié, ces erreurs-là ont été corrigées. Parce que c'est un décret qui avait amené des petits problèmes, sinon des problèmes, entre la population du district de Cataractes. Sinon, je suis sur la population du territoire de Mbandjangungu et celui de Madimba, celle de Madimba, tout simplement parce qu'il y avait une portion de terre qui appartenait au territoire de Mbandjangungu qui avait été donnée à la ville de Kisantu, sinon ça devrait appartenir à la ville de Mbandjangungu. Mais on avait suspendu le décret. On se pose la question maintenant, en publiant ce décret, est-ce que ces erreurs-là ont été corrigées? Aussi, les erreurs ont été corrigées. Une autre question, les erreurs dépassées, c'est qu'on avait remarqué, par exemple, au niveau de Mbandjangungu ici, il y avait un secteur qui devrait disparaître presque, qui devrait entrer dans la ville de Mbandjangungu. Où en sommes-nous? Donc, c'est un décret où les gens se posent la question, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? Aujourd'hui, par rapport à ce qu'attend la population, c'est des villes où d'abord il faut qu'on attaque le social et réellement que la population puisse se retrouver.
Merci, la réalisation me signale qu'Israël Moutala est en ligne. Israël Moutala?
Oui, évidemment.
Comment peut-on concilier l'impératif de la mise en place immédiate de la décentralisation et l'impératif de réunir toutes les conditions requises avant de mettre en place ces nouvelles villes?
En tout cas, franchement, jusque-là, je comprends pas la stratégie du gouvernement. Ça veut dire que ce sont des entités rurales qu'on élève au rang de ville. Voilà. Je sais que d'une manière générale, le souci du gouvernement, c'est de rapprocher les administrés de l'administration. Donc, il faut avoir une administration qui puisse être moderne, mais aussi, justement, pour les citoyens, pour répondre à tous leurs besoins en termes de santé, et tout ça. Et donc, la formule de la ville, la formule de la commune, ont été, considérées comme performantes pour, justement, accélérer le processus de développement. Mais c'est aussi dans un cadre plus global pour faire en sorte que les élus de ces entités puissent être directement en rapport avec leurs électeurs. Mais tout ceci est bien beau. Sur le papier, effectivement, ça sera des villes et des communes, des nouvelles villes et des nouvelles communes. Mais dans les faits, comme l'a dit Giscard, ils ne seront de villes que de noms. Mais alors là va commencer un grand travail, justement, d'équipements, d'infrastructures pour viabiliser ces entités afin qu'elles correspondent à leur nouveau rang. Là, c'est tout le débat. Est-ce que le gouvernement aura les moyens de sa politique ou est-ce que le gouvernement veut, par cet engagement dans le texte, faire en sorte que la modernisation de ces entités là-bas s'étale sur la durée, voilà. Donc c'est tout un débat. Mais il y a aussi une question que va poser ce découpage, c'est la question de l'identité, comment dirais-je, locale. C'est toujours une question complexe. Donc nous sommes au Congo où il y a des coins où les identités locales sont plus fortes que le vouloir vivre ensemble. Donc ça, c'est une communauté disparaît en termes de secteur ou en termes de district, elle s'estime lésée. Donc voilà, il y a toutes ces questions que ce décret, en principe, devait résoudre. Parce que plusieurs fois, ce décret a été reporté. Et je crois que on a plus ou moins essayé de résoudre cette question, mais c'est dans les jours à venir que, en face aux réactions des uns et des autres, que nous verrons si ce décret s'applique ou pas.
J'espère que justement, vous avez évoqué le fait que les commissions n'étaient pas encore réunies pour mettre en place de nouvelles villes et communes. Il y a même le premier ministre intérimaire, M. Koya Diallo, qui reconnaît qu'il se pose des problèmes dans l'application de ces décrets, mais il pense qu'il y a certains détails qu'il faut mettre au point.
Mais il fallait justement commencer par ces détails-là. Ce qui est sûr que ces qualités de détails, ce sont des préalables. Moi, je crois qu'il n'y a pas que les seuls critères de l'administration qui suffisent à faire d'un village une ville. Et on l'a dit, lorsque vous allez dans la définition, on vous donne des éléments constitutifs. Il n'y a pas que l'administration, mais il faut qu'il y ait de l'industrie, il faut qu'il y ait le commerce, pas que ce soit un service. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et tout à l'heure, j'ai suivi le reportage de Innocent Olenga qui nous détaille. On lit par exemple que c'est la province orientale qui a aujourd'hui 18. Mais lesquels? Il suffit qu'on vous cite ces villages, mais c'est scandaleux. Les Bandundu en deuxième lieu avec 12 villes, alors que les Bas-Congo ici, qui passent pour la province la plus développée, disons-le comme cela, qui a des grandes agglomérations comme Kisantou, qui répondent tout le monde aux critères minimales, nous ne sommes même pas répertoriés comme des villes, mais on va prendre Gungu, où la seule maison, c'est un couvent de prêtres qui a des infrastructures plus ou moins fiables, ou soit il y a un dignitaire qui vient de construire une maison, et qui sort pas d'eau, pas d'électricité.
Il est dit qu'il y a des études préalables qui ont été menées. Pourquoi vous savez
c'est des études que
vous évoquez?
Mais justement, je crois que ce sont des études tronquées. Ou si des études qui ont donné de mauvais résultats. Vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, vous voulez dire que ces études ont donné au Katanga que 6 agglomérations qui répondent aux critères de ville. Vous trouvez ça normal? Que dire de Kweto, que dire de Likasi, d'écologie, et à comparer par rapport à Gungu, Idiofa, Massimalimba, ou je ne sais quoi qui ont été créés ici. Mais écoutez, alors dans ces conditions-là, il fallait créer Kinkole, faire de Kinkole une ville à part. Je pense que Kinkole a tout de même les conditions minimales qui sont tout, qui sont testées et qui les restent ici. Donc je crois qu'il y a un problème. Il ne faut pas voir la lecture politique seulement pour qu'on dise voilà ce que j'ai fait pour ma province, j'ai fait 18 villes, alors qu'on n'a rien fait, même pas construit un puits, forgé un puits pour permettre à cette population d'avoir de l'eau. Okay. On est dans des cases et puis on dit que ce sont des villes.
Néron Kata, nous rappelons que pendant les derniers mandats, le gouverneur s'est plaigné du fait que le gouvernement central n'arrivait pas à reprocéder comme il se devait les 40% aux différentes provinces. Alors que ce problème n'est pas encore solutionné, l'on crée de nouvelles villes et communes. À votre avis, d'où viendront les moyens?
Donc, c'est toutes ces questions-là que nous sommes en train de nous poser, parce que j'étais en train de dire, est-ce que créer des villes et des communes, c'était ça la primauté, c'était ça l'essentiel d'abord qu'il fallait faire. Parce que moi, je crois que quand on parle même de la décentralisation, on devrait commencer par exemple par donner des moyens aux provinces, par exemple avec la rétrocession de ces 40%, si jamais 40% on pouvait les rétrocéder, c'est peut-être que ça donnerait des moyens aux provinces, et ces provinces pouvaient, dans la mesure du possible, chercher comment moderniser les villages qui existent. Parce que, comme l'a dit mon frère là, sincèrement, il y a des villages qui sont élevés en ville, mais c'est scandaleux. Il n'y a rien, on ne remarque rien comme structure qui peut amener ces villages à être appelés villes ou communes. Je crois qu'on devrait commencer par rendre ces villages-là un peu humainement acceptables, et puis, c'est à ce moment qu'on peut penser à les élever au rang des villes et communes. Mais encore, il y a un autre aspect qui se passe dans ces décrets-là. C'est l'aspect où les districts, les postes d'encadrement, les cités disparaissent. C'est vrai, le décret dit que tous ces agents, tous ceux qui travaillent là-bas, seront déversés au ministère qui doit les gérer. Mais c'est vrai, mais en attendant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Nous ne créons pas aussi des chômeurs. On ne vient pas ajouter le nombre de chômeurs, sinon un autre grand nombre au nombre de chômeurs qui existent déjà. Donc, vous voyez, ça, c'est un autre problème. Et on suivait ce matin comment déjà, je crois, au Kassai, si je me trompe, au Kassai, où il y a déjà discussion sur le leadership ou sur qui prend une ou telle ou telle autre décision. Est-ce que nous ne créons pas un problème?
Israël Moutala, les dés ne sont pas jetés. Maintenant que les décrets ont été rendus publics, qu'est-ce qu'il faut en avoir?
Nous sommes au Congo. Ça veut dire que c'est le pays du fétichisme des décrets et des ordonnances, où l'on pense que en apposant un document qu'on appelle décret ordonnance, en un clin d'œil, en un coup de baguette magique, les villes naissent ou se créent. Non. Je pense que on va se rendre compte de limite de ce décret. Il va poser plus de problèmes qu'il en résout et il va pas s'appliquer, tout simplement. Vous allez constater, d'abord, nous sommes à Kinshasa. Kinshasa, la ville elle-même se ruralise, excepté la Gombe, la Limete et les grands axes. Mais quand vous entrez dans les communes de Sélémba, Obumbu, au fin fond, certains Mangafula, il y a pas de conditions hygiéniques adéquates. Vous êtes à l'intérieur d'une même commune, vous ne savez même pas circuler en voiture d'un point à l'autre. Il y a l'enfablement, il y a les érosions. Kinshasa, lui-même, son statut de ville n'est pas un statut sérieux. Donc, on peut remettre même le statut de ville de Kinshasa.
Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il y a possibilité de revenir sur ce décret?
Tout découle d'une réflexion globale sur le processus de décentralisation. Comment va-t-on faire la décentralisation? Comment la programme-t-on, justement, dans le temps, avec quels moyens? Donc moi, je serais bien curieux de voir d'abord les études préalables que le gouvernement a effectuées pour faire ça. Mais sinon, là, il faut quand même absolument qu'on sursoie d'abord à l'exécution de ce décret. De toute façon, je crois que les décrets d'application sont encore pris. Alors, donc il va pas s'appliquer automatiquement. Il faut que d'autres décrets d'application pris par les ministres, celui de la Défense, celui de l'Intérieur, soient pris et celui des Finances. Tant que ces décrets d'application ne sont pas pris, donc les décrets du Premier ministre n'en sera pas en vigueur.
Merci. Nous passons à notre dernier thème de ce soir. L'intersyndicale de l'administration publique exige au gouvernement l'application des accords dits d'Ngoudi, tel que revu et approuvé par les deux parties. C'était lors de l'Assemblée générale de ce syndicat mardi à Kinshasa, place Golgotha. En effet, trois jours seulement après le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'administration publique sur un nouveau barème salarial, la partie syndicale a fait savoir que le ministre du budget, faisant office de celui de la fonction publique, refuse et l'application de ces accords. Jean Bosco Pouna, porte-parole de la partie syndicale, rappelle le bien fondé de l'application de ces accords au micro de Paul Félicien Nangana.
Les institutions de la République, notamment le Parlement et le gouvernement, soient assez conséquentes pour pouvoir cette fois appliquer les barèmes qui est sorti de ces tractations. Et en fin de compte, nous sommes tombés tous d'accord. Un ministre, qui qu'il soit, ne peut pas venir balayer les conclusions de toute une commission. Pour une fois, il ne faudrait pas que nous puissions encore revivre les affres du barème de Mboudi qui n'était pas payé. Si le gouvernement se dédie, eh bien, nous allons initier des actions syndicales et ça sera malheureux. Les discrédits du gouvernement qui sera mis en place.
Notez que le nouveau barème prévoit un salaire de 159 000 francs congolais pour les huissiers et 1 590 000 francs congolais pour le secrétaire général des administrations publiques. Pour le ministre du budget, l'atelier sur la politique salariale organisé il y a quelques jours ici à Kinshasa n'a pas sorti un nouveau barème salarial. Pour cause, cet atelier n'a pas tenu compte des contraintes budgétaires et n'a pas opéré des projections afin d'uniformiser les irrégularités et les disparités dans les primes de fonctionnaires de l'État. Réaction du ministre du budget faisant office de celui de la fonction publique aux allégations des syndicalistes qui parlent du refus de l'application d'un nouveau barème salarial par le gouvernement. On écoute Jean-Baptiste Ntawa Fuderoa, ministre du budget, au micro de Paul-Félicien Nangana.
il y a un constat malheureux qu'il y a une fonction publique à deux vitesses. Il y a des services qui sont bénéficiaires des primes et d'autres pas. Il y a des services qui sont bénéficiaires des barèmes sociaux et d'autres pas. C'est cette question que je tenais à ce qu'on puisse régler d'abord. Il faut harmoniser les barèmes, il faut trouver des primes et en sortir un barème qui soit unique, qui soit de référence, tout à fait qu'on puisse moduler cela par des primes spécifiques selon qu'on est dans tel ou tel secteur. Mais ce travail-là n'a pas été fait. Ce n'est pas un barème, c'était des propositions qui résultent du travail, des simulations qui ont été faites. Ce ne sont que des propositions qui ne sont pas validées à ce stade. Ce n'est pas un barème et donc il n'y a pas question de parler d'applicabilité au stade où nous sommes.
Et Giscard Kossema, je rappelle que vous êtes directeur général de Canal Culture Télévision, émettant depuis Kinshasa. Et à votre avis, le problème se situe à quel niveau, hein? Les syndicalistes brandissent le protocole d'accord signé la semaine dernière. Cependant, le ministre intérimaire de la fonction publique ne reconnaît pas ce protocole d'accord. Comment vous réagissez face à cette situation?
Je pense qu'il s'agit là de la mauvaise foi d'abord de la part du gouvernement, et c'est encore une fois scandaleux. Et il n'y a qu'un République démocratique du Congo où ce genre de discussion peut être mise à la place publique, où on doit négocier l'application d'une loi. D'abord, revenons à la genèse du concept Mboudi. Mais c'est un concept né des années 2003-2004, c'était à l'époque de la transition. Voilà. Donc, nous sommes en 2012, on discute de l'application dont on a négocié en 2003. Vous trouvez ça normal? Je ne suis pas économiste, interrogez les économistes, ils vous diront combien la vie s'est dégringolée de 2003 à aujourd'hui. Et tout ça là, c'est de manière subtile, parce que même ce premier barème là, n'a jamais été appliqué. On invoque ici des conclaves. Écoutez, les conclaves, les séminaires, les ateliers, il y en a eu, il y en a toujours, et il n'y a rien. Je pense que là, il y a quand même une preuve de mauvaise foi, parce que tout le reste, lorsqu'il s'agit de contribuer pour l'État, on sent quand même qu'il y a une certaine volonté. Voilà qu'on est passé de l'ICA à la TVA, on actualise les passeports qui coûtent autant d'argent, les plaques d'immatriculation, tout ça. Mais lorsqu'il s'agit du mouvement contraire de l'État vers le paisible citoyen, c'est des problèmes. Alors que lorsqu'il s'agit de contribuer pour l'État congolais, là, c'est on n'a même pas besoin de théorie, on applique, on n'a même pas besoin d'une vulgarisation.
Numéro 14, vous êtes directeur de la radio Keto, émettant depuis Mbandangungu au Bakongo. Et n'y a-t-il pas eu une certaine naïveté de la part des syndicalistes, hein? Nous savons que nous avons pour le moment un gouvernement intérimaire, un gouvernement qui a des pouvoirs très limités, et donc qui ne peut pas se permettre de prendre de tels engagements.
Oui, c'est vrai, parce que nous, on se pose la question de savoir pourquoi les syndicalistes devraient attendre le moment où on n'a pas encore un gouvernement. Et passez-moi les termes, un gouvernement responsable, parce que le gouvernement qui est là, on dit que c'est un gouvernement intérimaire. Mais plutôt la question qu'on se pose encore, est-ce que vraiment il fallait encore aller négocier pour un barème salarial? On a déjà négocié, c'était même un vice-président de la République qui avait signé ce barème, dit barème de Mboudi. Mais qu'est-ce qui avait bloqué pour qu'on puisse appliquer ce barème-là? Il fallait encore aller renégocier, c'est ça. Giscard a dit, par exemple, que quand il s'agit du peuple qui doit contribuer pour l'État, pour le gouvernement, là on ne négocie pas, là on ne va même pas en négociation, on ne vulgarise même pas. Et encore, ce qui est grave en ça, par exemple, vous savez ce que la TVA a voulu apporter, mais heureusement qu'on a compris, mais on a dit on s'en fout, on impose. Pas de problème, mais pourquoi pas pour les salaires que l'État puisse dire c'est un droit pour la population, c'est un droit pour celui qui travaille. Écoutez, et surtout que je ne cesse de répéter que nous sommes dans un quinquennat du social, donc ça devrait être automatique pour qu'on puisse donner un salaire qui se respecte. Puis il y a une autre question, c'est qu'on n'a pas encore le budget de cette année. Quand les syndicalistes sont en train de respecter, quand les syndicalistes sont en train d'aller négocier sur un barème, c'est ils se basent sur quel budget? J'aurais voulu qu'ils attendent peut-être qu'on puisse d'abord voter le budget au Parlement, après le vote du budget, mais aussi qu'on ait un gouvernement responsable, un gouvernement, le gouvernement qui est là, qui n'est pas intérimaire. C'est avec ce gouvernement qu'on pourra négocier, s'il y a encore à négocier, sur les salaires. Voilà.
Israël Moutala, je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Géopolis, c'est un magazine économique qui paraît ici à Kinshasa. Le nouveau barème prévoit un salaire de 150 000 francs congolais pour les huissiers et 1 590 000 francs congolais pour le secrétaire général. Et vous pensez qu'il est impossible d'appliquer un tel barème?
Oui, je pense que les fonctionnaires se sont quand même emballés trop vite. Dans ce problème, il n'y a jamais été question pour le gouvernement d'augmenter les salaires des fonctionnaires à la hauteur que vous avez mentionnée. C'est impossible. Avec quels moyens? Je rappelle d'abord ici qu'il y a à peu près 1 200 000 personnes qui émargent au budget de l'État. Et mécaniquement d'ailleurs, quand vous prenez 1 200 000 qui émargent au budget de l'État, et que vous le payez, le dernier panier de moule amélioré ici, vous avez dit 159 000 francs congolais, c'est à peu près 160 dollars. Nous sommes déjà en termes de plus ou moins, combien dire, 7 ou 6 milliards de dollars. Or, le budget actuel de l'État ne le permet pas. Nous avons en ressources propres à peu près 5 milliards de dollars. Et donc, même pour atteindre le premier panier de moule qui voulait octroyer 70 dollars aux huissiers, il fallait à peu près 4 600 000 000 de dollars. Et donc, on ne va pas avec le budget actuel, il est impossible de payer le barème de Moudi et améliorer. Je pense que là-dessus, le gouvernement n'a pas tort dans sa stratégie qui consistait à améliorer les salaires d'abord par le haut en descendant, parce que le sommaire, c'est par les secrétaires généraux qui ont plus de responsabilités, qui doivent donner l'impulsion, on descend par les...
Voilà, nous venons encore sur le plus des frères d'Israël Moutala. Nous avons des problèmes sérieux avec sa ligne. Juste à côté, vous pensez qu'il est impossible d'appliquer dans ce pays un tel barème?
Il n'est pas du tout impossible lorsqu'on connaît combien d'argent l'État encaisse tous les jours. Et on le voit à travers les gouvernants. Donc, si on doit se dire qu'il est impossible, donc il est seulement possible qu'aux dirigeants de devenir milliardaires, millionnaires, en un mois ou deux mois de gestion. Non, je crois que tout dépend d'une volonté. Il faut qu'il y ait une profonde réforme de mentalité de la part de nos gouvernants. Je pense que le problème se trouve là. Donc, dire de ce pays qu'ils sont incapables de payer ses propres salariés, alors de quoi serons-nous capables? Parce que tout devrait commencer par cela. Il faut commencer d'abord par développer l'homme, par donner le minimum. Si on n'est pas en mesure de donner, on a parlé d'un bout de tout à l'heure, qui semble-t-il à plusieurs paliers, je ne sais pas combien, et jusqu'à 10 ans, après, on n'est pas en mesure de franchir le tout premier palier. Et que dira-t-on du reste des paliers?
Nous Kata, maintenant qu'il y a ce qu'on peut qualifier de malentendu entre le gouvernement et les syndicalistes, une nouvelle rencontre entre les deux parties ne pourrait pas faire baisser la tension.
Oui, mais je me dis s'il faut continuer à négocier, s'il faut continuer à s'asseoir, plutôt pour moi, je commence par rappeler la responsabilité des gouvernants de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, on parle de TVA. On a suivi la fois passée, ils se vantent de la TVA qui est en train d'enfouir les caisses de l'État. Mais alors, il faut qu'on sente maintenant la bonne volonté de ce gouvernement dans les traitements qu'ils doivent allouer auprès de la population, comme on le dit là. Mais pour savoir, est-ce c'est impossible que l'État puisse améliorer vraiment les conditions salariales de sa population. Moi, je crois que l'État commence maintenant à nous dire réellement combien entre. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui entre réellement dans sa caisse pour que nous puissions nous dire, voilà, ce que réclament les syndicats, c'est trop haut. Je pense que maintenant, pour moi, ce n'est pas assez important qu'on continue à négocier, mais que l'État soit responsable, mais aussi que les syndicats puissent savoir à quelle porte s'adresser. Parce que pour moi, un gouvernement intérimaire qui est même censé ne pas prendre de grandes décisions, je crois que ce n'est pas encore assez intéressé qu'on continue à négocier avec le gouvernement intérimaire. Alors que les syndicalistes puissent attendre le gouvernement qui sera mis en place, et avec ce gouvernement, ils peuvent négocier, comme ça on pourra aboutir réellement à un résultat probant.
Bien, Nicolas, vous disiez qu'au vu du budget de ce pays, il était impossible d'appliquer un tel barème. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin à cette tension entre le gouvernement et les syndicalistes?
La première proposition, c'est qu'on assainisse d'abord la fonction publique. Il y a beaucoup de gens dans la fonction publique qui n'y ont pas leur place. Tous les agents de la MOPAP, de Mobutu, tous les engagements clientélistes qu'ont fait les différents ministres de Mouzé et même les ministres de Kabila, on a mis des gens dans la fonction publique qui n'avaient rien à y faire. Qu'on définisse d'abord, qu'on puisse résoudre la question de la pléthore et du vieillissement, et tout ça, on va améliorer progressivement. Et donc, pour moi d'abord, la question du recensement, la question de la qualité, la question des qualifications, la question de l'organigramme, sont des questions majeures. Et alors, concomitamment à ces questions, la question justement de l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Mais dans un premier temps, l'État ici doit faire avec, parce que faut rappeler aux gens que l'État ne paye pas que des salaires. Et à part les salaires, il y a les frais de fonctionnement de l'État, il y a le poste d'investissement. Et donc, il faudrait absolument aujourd'hui qu'on sache que de quel type de fonctionnaires, quel nombre avons-nous besoin. Il faut d'abord une réflexion stratégique sur le rôle de la fonction publique au XXIe siècle dans notre État et après dégager les grands axes. Mais il faut aller progressivement palier par palier pour résoudre la question de la paye. Donc, toutes ces questions doivent être évacuées avant d'envisager une quelconque augmentation. Parce qu'il y a des gens que je connais qui font un mois, deux mois, trois mois sans aller au travail.
Merci.
Et donc, il y a toutes ces questions.
Juste simplement, qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin à la tension?
Moi, je propose simplement que l'État prennent ses responsabilités. Il n'est pas du tout impossible d'améliorer la situation de la population. Sinon, c'est une bombe à retardement, pour paraphraser une élite congolaise qui a dit qu'un pouvoir qui ne tient pas compte des aspirations du peuple est un pouvoir vain.
Merci, c'est la fin de cette émission. Dieudonné Nangassa était à la technique, Alain Hirong à la réalisation associée de Samuel Kachach, et sous la supervision de Ben Kabamba, devant ce micro, Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Okapi. Thank you.